Donc c'est Gilles ça là.
Yep.
Manu Dibango sur Africa numéro 1.
Bonjour, 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 mon cher Robertito.
Bonjour et bon dimanche à toutes et à tous. Demandez le match Afrique. Demandez le match Afrique.
Qui n'a pas son match Afrique. Oh là 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 là.
Alors, c'est pas la première une de Manu. Il y en a une plusieurs, mais celle-là, on l'aime beaucoup, hein, parce que c'est vraiment l'instrument, le bonhomme, comme tu dis, Bibi, et puis surtout ce pari que tu aimes tant.
Bien, c'est un rêve. Ça fait partie des rêves qu'on peut avoir c'est comme ça, quoi. Parce que là, réellement, un reportage entier sur ce journal-là, je sais pas qui a eu l'idée, mais quand l'idée est arrivée, il fallait habiter l'idée après. Et puis quand tu vois les photos, que tu vois les reportages et tout ça, ça fait plaisir. En même temps, il y a... Comment dire ? Il y a une zone de Saouda quelque part.
Eh oui, mais alors magnifique Saouda, et en même temps, ben, l'occasion de Manu, parce que quand même, c'est bien les 60 ans de carrière qui continuent, on les célèbre, on continue, et il y aura d'ailleurs une belle célébration en octobre, prenez déjà vos places pour le...
Si l'horloge pouvait s'arrêter un peu,
non.
Qu'on arrête à 60, mais qu'on continue
mais
quand
on
même.
Mais on continue, et
c'est
comment
ce qu'on fait.
On l'a dit avec le Safari Symphonique, mais surtout parce que finalement, ces 60 ans de carrière de Manu, c'était l'occasion d'avoir dans un numéro spécial de nos amis de Paris Match Afrique, eh bien, une sorte de passage en revue de ces très beaux moments de ta carrière. Et il y en a toujours tous les jours. D'ailleurs, il y a toujours des belles rencontres. Mais là, on a aussi les images. Et alors qu'on retrouve Bella Bello, Nino Ferrer, et puis alors tout ce beau monde, c'est vraiment formidable.
Ben, ce qui est bien là-dedans, c'est que je remercie énormément tous ceux et toutes celles qui ont eu l'idée de faire ça, parce qu'évidemment, ce n'est pas moi qui ai pensé à tout ça. Mais il y a du monde autour de moi, et du monde qui m'aime, et jusqu'aux musiciens, parce que quand je me suis assis l'autre jour au Palace, que j'ai vu défiler, c'était une bande, plus qu'une bande son, c'était une bande émotionnelle, de voir tous ces artistes-là qui passaient pour... ça fait chaud au cœur, et ça, c'est bizarre comme sentiment, tu vois, Tito.
Ils ont fait le bœuf. Hein,
voilà, tu vois beaucoup, je vois Hervé Bourges là, à qui je souhaite d'ailleurs un bon rétablissement.
On pense très fort à lui.
Et on pense énormément à lui. Et je vois les Bella Bello, je vois du monde là. Et je vois surtout la chaleur humaine. Et je vois l'amour aussi, de temps en temps, on peut le voir passer. Ça devient de plus en plus difficile de voir passer l'amour. Mais si vous avez des bonnes lunettes, vous avez la chance. Vous avez la chance de voir passer l'amour, et ma foi... j'ai une bonne paire de lunettes et j'ai vu passer, et je vois tout ce temps-ci passer devant moi. Ce qu'on peut souhaiter à quelqu'un, parce que pas forcément un artiste, hein, parce que chacun est artiste dans ce qu'il fait dans la vie. Mais à un moment donné, la reconnaissance des uns et des autres qui tombe sur toi de cette façon-là, ben, la meilleure façon de les remercier, c'est de souhaiter la même chose à beaucoup de gens.
Et qu'ils aient une aussi belle et longue route que celle du Doyen Manu. Alors on l'a dit, parce que nos amis du Paris Match Afrique, c'est vrai, c'est le fameux supplément qu'on trouve dans les bonnes crèmeries à Paris, en province un peu plus rarement, avec un clin d'œil à l'ami d'ailleurs, Salé John, le Doyen John
Ah
Co,
là là, Emma, je l'ai eu au téléphone,
qui
alors.
Qui demande tout son flamme. Exemplaire, mais en Afrique, il est partout. Hein. Et puis c'est un gros clin d'œil à toute la rédaction, parce que... Ils ont quand même fouillé, chiné, clair évidemment, Jean-Michel Denis, quelle belle plume, et puis Vincent Capman qui a fait des très
oui.
belles photos.
Je regrette d'ailleurs, le seul regret c'est qu'on a fait le tour de la scène, et je vais lui demander s'il a d'autres photos, parce que vraiment on a passé une après-midi à faire le tour avec un bateau, l'eau quoi, l'eau qui nous unit, et nous sommes des gens de l'eau nous en plus, les savoirs, alors donc... Il n'y avait pas savoir à côté, mais il y avait l'eau.
Il y avait l'eau, et en tout cas, il y a beaucoup de plaisir à se retrouver ce dimanche. Et c'est vrai qu'on voulait ouvrir par ça, parce que ça nous fait plaisir et on le partage avec toute la famille.
Voilà, comme d'habitude, c'est un plaisir pour les papis.
Les mamies, les papas, les mamans, sans oublier
la progéniture. Alors, on est toujours dans notre messe à nous du dimanche. Il y a toujours deux parties. La première partie, c'est toujours « Way back, il était une fois ». Cette fois-ci, ça tombe sur quelqu'un qui m'a fait venir dans cette maison. Les chemins sont impénétrables. Enfin, je veux parler de Gilles Salah.
Eh oui, le grand Gilles Salah, un pionnier de la musique afro-caribéenne. Et on révélera pourquoi le terme « pionnier », parce qu'il était là, way back, way back.
C'est vrai, on peut même dire que ça a été le premier. Mais bon, on va vous détailler tout ça après...
Une petite page de pub.
Mm-hmm. Manu Dibango sur Africa numéro 1.
La radio africaine 107.5 FM, ce dimanche, nous nous baladons au pays de Gilles Salah.
Au pays au pluriel, alors, parce que lui, il a plusieurs pays, hein, c'est vraiment spécial. Gilles Salah, il est d'origine caraïbe, mais il est né au Cameroun, au nord du Cameroun. Mm-hmm. Et ses parents, je ne sais pas, devaient être militaires, musiciens, certes, mais là, il n'y avait pas encore de profession à cette époque-là. Il y avait l'amateurisme avec un grand A, ce qui veut dire qu'il devait être ou militaire ou fonctionnaire. Et qu'ils passaient leur temps à faire la musique. La maman chantait, le papa devait gratter quelque chose. Et lui, il est né au nord du Cameroun avec ses deux parents qui avaient l'amour de la musique pour partage.
Et c'est vrai qu'il voit le jour au Cameroun, Douamanou, et puis à l'âge de 2 ans, quand il est tout petit, il retourne du côté des Antilles en Guadeloupe. Mais la musique, tu le disais, est toujours là parce que c'est vrai, maman pianiste, papa guitariste, mais les grands-parents aussi. Grand-mère, grand-père musicien, ça donne quand même un sacré background. Et il le disait d'ailleurs lui-même, quand il faisait cette émission le dimanche, j'avais des rythmes plein la tête.
Ouais, ça me donne une anecdote, moi. C'est pendant longtemps, dans les années 60, je faisais beaucoup de balles avec les accordionnistes, tout ça. On gagnait notre vie, en fait, à faire le tour de France, mais pour faire marier les Français dans les campagnes. Donc, il y avait beaucoup des accordionnistes de style aimable, de style Verschuren, les Marcel Azola qui vient de nous quitter, tout ça. Ils avaient besoin d'orchestre et à cette époque-là, il y avait le fait qu'ils étaient friands des orchestres tropicaux. Donc, devant, il y avait un accordionniste français, bien sûr, de souche. Plus son orchestre tropical de Paris. Donc, on faisait donc partie de ces orchestres. Et dans ces orchestres, il y avait beaucoup d'Antillais qui étaient musiciens, mais c'était pas leur métier. Ils travaillaient les trois quarts du temps, ils étaient au métro, ou bien dans les bus, ou bien à l'hôpital. Et donc, tous les week-ends, ils étaient dans la musique et le lundi, ils repartaient comme poinçonneurs dans le métro et tout ça. C'est des gars qui avaient une double vie extraordinaire. Hein. Et ça arrivait que le soir même, ils pouvaient travailler à la canne à sucre. Donc, pour dire que les Antillais, ils avaient la musique dans l'âme, dans le corps, bien sûr, mais ils avaient un métier à côté. C'est le cas des parents de Gilles Salah, quoi.
Et c'est vrai que Gilles Salah, il va suivre d'ailleurs la donne parce que déjà du côté de Pointe-à-Pitre et pendant qu'il est adolescent, il écoute beaucoup de chansons, il s'essaie à l'animation déjà dans une radio locale et dans ces années qui sont des années très particulières, la guerre aussi passe par là et lui il quitte la Martinique d'ailleurs où il officiait à la fin de la guerre et tu l'avais dit dans une autre émission, il débarque à Paris pour étudier donc à l'école dans la rue d'Ulma. Et tu parlais tout à l'heure de la capitale qui bouillonne. On peut dire que ça l'a rattrapé, que les études sont restées sur le côté.
Voilà, ben il n'est pas le seul d'ailleurs. regardez, écoutez plutôt celui qui vous parle. Oui, ben il y avait à l'époque, en plus ils étaient français, donc le problème pour eux c'était de quitter donc la Caraïbe, de venir dans le froid de Paris et tout ça. Mais quand ils arrivaient à Paris, il y avait déjà beaucoup de familles antillaises qui étaient là. Il y avait, on peut dire, donc une colonie, ce n'est pas péjoratif, quoi, une colonie de Caraïbiens qui était là. Et lui, il allait du côté de la musique. Il y en a qui allaient du côté du sport, mais beaucoup, la musique, comme la famille Légitimus, c'était toute une famille qui avait un grand orchestre. Il y avait des orchestres comme ça. Alors, il suffisait que tu aimes la musique pour que tu trouves des endroits où ils performaient tous les soirs, le bal nègre, tout ça, rue Blomé, tout ce dont on entend parler maintenant, ça existait déjà à l'époque. Et donc lui, Il n'avait qu'à sortir le soir et éventuellement à faire le bœuf à droite et à gauche.
Et c'est toujours des rencontres et des collaborations, parce que là, on parle de la musique antillaise, on parle également des Guyanais. Et Gilles Salah va retrouver des personnes comme Ernest Léhardy,
oui.
Avec qui il va enregistrer. Et ça, ce sont des noms de Amanou qui résonnent évidemment dans l'esprit de ceux qui ont connu l'époque. C'était des noms qui faisaient l'ambiance à Paris.
Oui, ça faisait à l'époque comme les Joséphine Baker et tout ça, les Sidney Bechet, première manière, parce que Sidney Bechet, la première fois qu'il est venu à Paris, c'était en 1927. Donc il y avait déjà le bal nègre, il y avait tous ces milieux que fréquentaient les intellectuels français d'ailleurs. Hein. Il y avait un mélange à nul autre pareil à cette époque-là. Les Noirs qui venaient, ils étaient antillais, étaient français, dont le problème, les problèmes d'immigration et tout ça ne se posaient pas encore. Et le milieu de la nuit, avant que les Américains viennent en nombre, il y avait déjà des Antilles. Hein, et le bal, vraiment, la biguine était reine à Paris.
Et Gilles Salah impose son timbre de voix, il y a les Haïti chéris, et puis ensuite il y a des rencontres. Alors avec des noms de ceux qui soufflent, Loulou Maugère, clarinettiste, avec le studio Musique Monde. Et il y a aussi des personnalités comme Umberto Texera, avec qui il signera Kalou. On a l'impression qu'il fait une sorte de, d'auto-stage, d'auto-casting, parce que il est partout. Et les nuits parisiennes, à l'époque, c'est qu'il faut se faire montrer. Il adopte un look et il y a ses photos d'époque où tu le disais. Il est un peu le Tino Rossi.
C'était même ça, d'ailleurs. Parce
le Tino Rossi de l'époque.
Pour que tu puisses enregistrer à l'époque, il fallait avoir de la voix. Il faut avoir fait de l'opérette. Pas l'opéra, hein, l'opérette que les Français adorent. Et puis Tino, c'était le patron de ces musiques sentimentales et tout ça. Et donc, ça a été le premier à qui on donnait le nom de Tino Rossi Noir, parce qu'effectivement, il chantait très bien. Pour pouvoir enregistrer dans les années 50, ce n'est pas comme maintenant, hein, les studios, pour qu'ils puissent te signer un contrat de 7 ans, il fallait vraiment que tu aies quelque chose dans la gorge. Et lui, en fait, en dehors de Henri Salvador, c'était lui qui représentait un peu le monde noir dans la variété française.
Et avec l'image, parce qu'il y a des photos où on croirait quasiment les Harry Belafonte ou
autre. Bel homme, hein,
il y avait la chemise. Et il fallait, tu disais, Duan Manou, rêver des îles, faire rêver le
c'est
public.
C'est ça. C'est les tropiques des îles, si je peux dire. et donc, il représentait, mais toujours dans la qualité, évidemment. Hein. Simplement, ce côté-là, il manquait, donc dans la chanson française, il manquait quelque chose d'épicé. Et ils étaient deux. Côté humour, Salvador. Côté vraiment chanson. Et chanson un tout petit peu à l'eau de rose, si je peux dire. Je dirais peut-être à l'eau de rhum, du rhum d'ailleurs. Donc, c'est lui qui a amené un peu ce côté tropical dans la variété française. Et il faisait des tournées, il était très connu et reconnu. Même nous étions élèves ici. On avait du plaisir à écouter Kalou. Par exemple, ça a été l'un de ses premiers tubes. Et on n'osait même pas l'approcher parce qu'il faisait partie des vedettes qui faisaient rêver, en fait.
Et les étudiants d'alors, d'ailleurs, se souviennent encore des titres comme « Kalou »,« Adieu mon rêve »,« Te dire adieu », la chanson de Marino Marini. Alors, quand j'ai vu ce nom, j'ai pensé à mon papa, parce qu'on se disait, mais ils avaient des noms assez originaux, d'ailleurs.
Oui, les Marino Marini, c'était des Italiens. Hein. Ah. C'était des Italiens qui étaient très populaires ici. Il y avait des Portugais, deux ou trois Portugais et Portugaises qui étaient populaires en France. Il y avait des Italiens qui étaient pour la chanson italienne, en fait, napolitaine. Elle était très populaire ici. Et les Marino Marini se reprenaient les uns les autres. Hein. Les tubes français étaient repris en Italie, vice-versa. Donc ça communiquait bien. Et puis c'était le soleil. Dans le monde de Tino Rossi, on amenait un autre soleil. Parce
avec
que lui-même
titres,
aussi était corse.
Oui,
donc,
était corse. Voilà. Avec des titres comme « La plus belle maman du monde ». Et puis, il fait des tournées en Allemagne. Mais ce qui va être déterminant aussi dans son parcours, c'est dans les années 50, il se rend en Afrique, à Dakar et Abidjan. Et là, Duan Manou, c'est vraiment alors quelque chose de formidable qui se passe.
Ben, son ADN le rappelait à lui, hein, parce qu'il a été le premier à penser, vraiment. C'est parce qu'il faut dire que les voyages n'étaient pas faciles quand même dans les années 50. Il n'y avait pas encore des avions, il n'y avait que des bateaux. Donc, avoir l'idée d'aller faire un tour dans ces pays-là pour écouter autre chose, il était un peu précurseur. Hein,
et tu disais d'ailleurs, il a chiné pour trouver des talents.
Ouais. Avoir cette idée, alors que lui, il est très connu, il laisse cette casquette de vedette pour prendre une casquette de journaliste, aller un peu écouter ce qui se passe à la mère patrie, si je peux dire, hein, puisqu'il est né en Afrique. Mais surtout, la curiosité, à l'époque où il n'était absolument pas question des musiques africaines, hein, les seules choses qu'on connaissait ici, c'était des ballets, ou de Keita Fodeba, ou des ballets qui venaient d'Afrique, mais qui jouaient une soirée et puis qui repartaient. Mais il n'était pas question de musique africaine. Il y avait la musique et les musiques antillaises, mais en tout cas pas encore la musique africaine, puisqu'il n'y avait pas de musiciens africains, il n'y avait que des étudiants.
Et ça va être formidable pour lui, parce que dans la décennie 60, évidemment, il fait le pont en présentant des artistes d'où qu'ils viennent. D'ailleurs, on peut avoir Fanta Damba du Mali, on a Fonseca, dont il avait pris d'ailleurs le Otodi Koplodo comme générique, et il se promène un peu au gré, et surtout, il chronique les pochettes. Il fait découvrir des artistes, il met leur biographie, il met des photos, et il devient une sorte de passeur.
En fait, il met les musiciens, les artistes, les chanteurs, les chanteuses qu'on ne connaissait absolument pas ici. Il allait les découvrir, et je peux te dire que le matériel à l'époque, parce qu'il fallait du bon matériel, il fallait un bon nagra pour pouvoir... Un nagra, c'est les
qui n'était pas léger.
Non, c'est les magnétophones de première qualité. Il fallait déjà avoir les moyens de les avoir, parce qu'il partait d'abord de son propre chef, avec ses propres moyens, à la découverte de... C'est vraiment un précurseur, quoi. On peut le dire, et là, aujourd'hui, on va le dire.
En musique, évidemment, parce qu'après être précurseur dans les courants musicaux et la découverte d'artistes, il va se mettre derrière le micro de la radio Africa numéro 1. Alors, dès 83, il y a Radio Europa 1, puis plus tard, il y a l'aventure Africa numéro 1. Et on salue d'ailleurs Georges Courrèges, au passage, et puis tous les amis de la rue Guersan.
Il y a longtemps qu'on n'a pas eu bonne année. Oui. Il est, pour toi, il n'est jamais, en tout cas, trop tard de te souhaiter bonne année, si jamais.
Absolument, hein, c'est sa fille Emmanuelle qui nous a fait un clin d'œil il y a... Pas longtemps, c'était à l'occasion des fêtes. Et puis, en 2001, il passe le relais au Doua Manou et à Tito. Mais les œuvres de Gilles Salon ont été rééditées par Diapi Diawara, son ami qui est du côté de Bourg-la-Reine, et qui nous a permis de retrouver des trésors avec un son qui déjà était propre à l'époque. Mais là, Doua Manou, on se rend bien compte que c'était bien arrangé au début.
Oui, mais il gérait les deux côtés, en fait. Il gérait le côté artiste proprement, professionnellement. Il avait le choix... Il était éclectique et en même temps, il gérait le côté découvreur de talent de l'autre côté et notamment beaucoup, beaucoup, beaucoup en Afrique. Moi, je me rappelle quand je jouais chez Fonseca en 58-59, Gilles Salah venait là pour découvrir le côté des Antilles néerlandaises, par exemple,
hein,
qui jouait beaucoup en Belgique, des Haïtiens, des qu'on ne voyait pas forcément à Paris. C'est moi, je l'ai découvert, non pas à Paris. J'ai découvert Gilles Salah, le découvreur de talent. Je l'ai découvert aux Anges Noirs chez Fonseca.
Ah, on comprend mieux pourquoi il a choisi Otodi Koplodo comme générique.
Voilà.
Et alors, dans la marmite de ces tubes, il y a évidemment ce fameux Kalou. On dirait une musique de film.
Ben, c'est un peu une musique, on peut dire, de couleurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Et puis, c'est un peu une peinture naïve. C'est comme les naïfs haïtiens. Tu vois, c'est les tropiques d'une façon, je ne sais pas, naïve, tout simplement.
Et puis, il y a surtout le trémolo qui reste toujours aussi présent. Et puis, lui, il s'en sert dans beaucoup de titres qui ont des couleurs... Biguine, Mazurka, des titres dont on parlait. Et d'ailleurs, il avait le concours du trio Karukera, qui était bien connu dans les titres comme Créole aux yeux si doux.
Oui, mais lui-même, c'était un chanteur sentimental, on peut dire. Hein, parce que Tino était sentimental, il y avait un sentimental noir, c'était lui.
Et dans ses rêves, il y a cette rêverie antillaise ou encore petit roi des ananas. Alors on est dans quelque chose, les gens, les esprits chagrins vont dire c'est cliché, mais il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet et toutes les télés. Il est question de faire voyager l'auditeur.
Voilà pourquoi je parle de peinture naïve, quoi. Il y a une certaine naïveté. C'est le douanier Rousseau, c'est un peu ce côté-là, quoi, tu vois. Très léger, on n'approfondissait pas, on rêvait superficiellement. C'est comme Tahiti faisait rêver avec les tamourés et tout ça, on rêvait superficiel, on n'allait pas dans les problèmes parce que c'était pas l'époque des problèmes encore. C'était encore l'époque des 30 glorieuses, quoi.
Et les périodes, en tout cas ensoleillées, notamment avec la voix de Stella Félix, on lit dans les crédits vedette de l'époque qui chante en duo avec lui le titre Fatou.
Oui, ben ils avaient beaucoup d'avance parce qu'ils avaient des possibilités d'enregistrer et surtout de passer à la radio.
Et oui, Africa numéro 1, la radio qui vous fait rêver au pays de Gilles Salah.
Voilà, donc notre première partie, ce sera donc Kalou.
Ensuite, Créole aux yeux si doux.
Rêverie antillaise.
Petit roi des ananas.
Fatou chanté avec Stella Félix.
Manu Dibango sur Africa numéro 1.
La radio africaine, un dimanche, c'est évidemment le souvenir de Gilles Salah. Et ici, Gilles Salah, l'artiste, le chanteur, ou j'allais dire même l'enchanteur, parce que les morceaux font rêver.
Et le lanceur de talent.
Et oui, d'ailleurs. Alors, tu évoquais Haïti de Manu. Haïti, c'est toujours très proche et en même temps très lointain. Parce que finalement, quand on pense Antilles, beaucoup voudraient mettre tout le monde dedans. Mais Haïti, c'est quand même une touche particulière musicalement.
En général, c'est toujours ce côté donc naïf où on ne sait pas. La Guyane, on a l'impression que c'est aux Antilles. Pendant longtemps, notre homme...
Henri Salvador,
tout le monde le prenait pour un entier. D'ailleurs, lui, il jouait de ça aussi. Je veux dire, c'était trop compliqué pour les gens. Tout le monde ne savait pas qu'il était Guyanais, que la Guyane, c'est le continent, et que les Antilles, c'est les îles. Eh bien, il y avait cette dualité que tout le monde gérait, tout le monde était content, on n'en demandait pas plus.
D'autant plus, tu le disais, il avait chanté dans ces années-là, dans mon île.
Voilà, bon. Donc... je crois pas que ce soit lui qui a composé ça, il a été interprète. Mais bon, pourquoi pas, c'est pas loin de toute façon. Alors, Haïti, ça fait rêver, mais Haïti, c'est déjà pas les Antilles, les Caraïbes, parce qu'Haïti, le premier pays noir indépendant, tout ça, l'ouverture et tout ça, ça n'a aucune comparaison avec les Antilles.
Et ça reste
point de vue historique, je veux dire.
Historiquement. Et ça reste toujours dans l'expression, on salue d'ailleurs nos amis haïtiens. Dès qu'on entend un haïtien, il va dire « Haïti chéri ». Il ne dit pas simplement « je viens d'Haïti ».
Ça sonne mieux.
Et puis à cette nostalgie africaine avec des notes de guitare, ben, on croirait presque du Gégé Viqué quand on l'entend.
Oui, alors c'est un Camerounais, là, le nom m'échappe maintenant, mais ça a été son compagnon pendant très longtemps qui l'accompagnait. Tokoto, je crois qu'il s'appelait Tokoto. Oui. Il a accompagné Gilles, ils étaient très amis, et jusqu'à la fin, ils faisaient des choses ensemble. Et puis, je ne sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs, est-ce qu'il il a encore en vie le Tokoto en question, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a une quinzaine de jours, il y a quelqu'un qui m'a affirmé effectivement que Gilles Salah est parti depuis un certain temps quand même.
Ah d'accord, voilà, parce que c'est vrai qu'on attendait les nouvelles toujours, mais c'est toujours une belle et grande pensée pour lui et pour sa sœur, qui venait très souvent d'ailleurs tenter nous rendre visite. Avec cette nostalgie africaine, il y a aussi « Adieu mon rêve ». Et « Adieu mon rêve » de Amanou, tu le disais, c'est comme le spleen, comme l'ouga qui chante un jour de grand soleil. Il y a toujours le regret, les souvenirs du pays lointain.
La morna, quoi. Et puis, il avait chanté un morceau sur Douala aussi. On ne l'a pas retrouvé celui-là, mais il y a un morceau Douala, composé par Gilles Salah d'ailleurs. Comment il voyait quand il arrivait à Douala et tout ça, assez poétique.
Il y a toujours ce fameux pays au Moulema, ça peut être Douala ou ailleurs.
Voilà, quelque part. Là, en l'occurrence, adieu mon rêve, peut-être que le rêve l'amenait sur les bords du fleuve Vouri, qui sait.
En tout cas, une grande pensée pour Monsieur Gilles Salah avec la deuxième partie du jukebox.
Ben, on était content, en tout cas, de penser à lui aujourd'hui. On pense toujours, mais spécialement musicalement, c'est bien que vous sachiez que c'était un agent double, mais dans le bon sens, artiste quelque part et puis découvreur de talent de l'autre part.
Manu Dibango sur Africa numéro 1.
Gilles Salah avec ses belles mélodies nous fait rêver ce dimanche et juste après la pub, nous irons du côté de Ziguinchor.
Eh ben, on va voyager, on voyage ce dimanche, hein. Allez, Touré Kounda, salut, 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 salut.